franceinter.fr.
Le général de Gaulle est en ce moment à bord du croiseur de Grâce. Il se trouve donc à quelques 40 km de l'atoll de Mururoa, au-dessus duquel explosera la bombe atomique française, si toutefois les conditions atmosphériques le permettent.
C'était le 11 septembre 1966. La France allait réaliser son 4e essai nucléaire en Polynésie. On célébrera bientôt le 50e anniversaire du premier essai qui, lui, avait eu lieu quelques semaines plus tôt, le 2 juillet. Jusqu'à l'arrêt des essais, en 1996, il y a eu en tout 193 tirs aériens, puis souterrains, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. Pendant longtemps, l'armée française n'a rien dit des conséquences de ces essais sur la santé des militaires et des travailleurs civils qui y participaient, ou sur celle des populations qui habitent les îles environnantes, parfois situées à une centaine de kilomètres seulement. Les essais français étaient réputés propres et maîtrisés. On sait depuis quelques années qu'il n'en était rien, que les militaires, les travailleurs et les populations ont été soumis à des doses de radioactivité parfois très importantes, qu'ils ont pour certains développé des maladies radio-induites, notamment des cancers, et on s'interroge aujourd'hui sur la possibilité que ces personnes contaminées aient transmis à leurs enfants ou petits-enfants des maladies ou des malformations génétiques. En visite en Polynésie en février dernier, le président de la République, François Hollande, a reconnu que les essais nucléaires ont eu des conséquences sanitaires. Il a promis que la question de l'indemnisation des victimes sera revue. L'actuelle loi d'indemnisation, la loi Morin votée en 2010, n'a permis d'indemniser jusque-là que 19 personnes, dont 7 Polynésiens. Les victimes sont pourtant sans doute beaucoup plus nombreuses. Combien exactement? Impossible de le savoir, sans étude épidémiologique exhaustive, dans ces îles où les médecins ont longtemps été exclusivement militaires. Toutes les pathologies constatées ne sont pas forcément liées aux essais nucléaires, mais les Polynésiens vivent maintenant dans le doute et attendent réparation. Polynésie, génération nucléaire, au pluriel, c'est un reportage de Philippe Reltien.
Interception, le magazine de la rédaction.
Je suis donc avec Jacqueline Golaz. On est venu ici pour parler des enfants que vous avez suivis quand vous étiez institutrice.
Oui.
C'était en
1962 jusqu'en 1970, au Gambier, dans l'île Mongariva.
Quand 1966 et le 2 juillet arrivent, oui. Vous savez que c'est le premier essai dans l'atmosphère français, à Mururoa. Et votre île, elle est distante de combien à peu près?
Une nuit en bateau. Beaucoup de militaires sont arrivés. Et on nous a dit qu'il y aurait des essais nucléaires sur Mururoa. Mais ça ne nous a pas tellement choqués parce qu'on ne connaissait rien là-dessus. On savait qu'il va y avoir des tirs. Mais c'est tout, hein, sans plus. Hein.
Quand exactement, vous ne saviez pas?
Non, on ne savait pas.
Bon, donc,
Les premiers tirs, on ne savait pas. C'est quelques années après qu'on nous prévenait et puis qu'on avait fait un blocus en tôle sur l'îlot.
En tôle?
En tôle.
Pour combien de personnes?
Ben pour toute la population. Par contre, les militaires, déjà bien avant 60, étaient venus sur le district de Taku pour faire leur blocos.
On pouvait mettre 500 personnes dans ces abris?
Dans le blocos? Ah non, il n'y avait que les militaires. Mais nous, dans notre abri en tôle, ben, toute la population.
C'est-à-dire tout le village de...
Tout le village.
Combien?
C'est-à-dire, 300? Oh non.
200?
Oh, 100? 200.
Mais est-ce que vous étiez dans le sens oui. du vent?
Ah ben oui. Oui, on entendait même.
Qu'est-ce qu'on entendait?
Ah ben le boom. On voyait la lueur, alors une fois avec mes élèves, on est monté sur la montagne, avec les gens de la météo. C'était eux les premiers aussi qui disaient, on a une bombe aujourd'hui, et tout, et tout. Ils ont dit, ça va péter. Et en effet, on a vu une lueur verte électrique, assez éloignée. Et puis après, d'abord le vent, je crois. Un souffle où tous les cocotiers et les arbres autour de nous ont été balancés, et puis après un bruit. tout trembler. Et un jour, j'étais en classe, et « Madame, madame, il y a trois messieurs dehors, trois officiers dehors. » Alors je me lève, je vais les voir. Il me dit « Il paraît que vous avez un cahier de dispensaire. » J'ai dit « Ben oui, comme d'hab, est-ce qu'on peut le consulter ?» J'ai dit « Pas de problème. » J'ai donné. Et puis, on a continué à faire classe. Et une heure après, on entend «
Ouh !» La sirène du bateau.
La sirène du bateau. J'ai dit « Punaise, mon cahier de dispensaire, on n'a pas ramené. »
Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce cahier qui pouvait intéresser l'armée?
Je ne sais pas. Il y avait toutes les maladies des enfants, les toutouas, la diarrhée, en fait, tout ce qu'il y avait.
Et vous, vous commencez à voir des choses sur les enfants à partir de quel moment?
Moi, je constatais qu'ils avaient la diarrhée. Et puis, une fois, un papa est venu me voir disant que sa fille perdait ses cheveux. Alors, le papa a cru qu'on tirait ses cheveux ou quoi, ou quoi. Alors, j'ai fait une petite enquête. Non, c'était pas ça.
Mais est-ce que cette fille, elle est toujours en vie, la fille du chef?
Oui, elle a eu le cancer. Et puis, elle en avait marre d'être soignée. Elle est repartie dans son île, soignée à la thaïsienne.
Ça veut dire?
C'est-à-dire, il y a des médicaments thaïsiens pour le cancer.
Des plantes?
Oui, mais elle est repartie chez elle. Et puis, quand je suis revenue ici, j'ai vu beaucoup de mes anciens élèves mourir de cancer. Cancer du foie, cancer ici.
De la thyroïde.
Beaucoup, beaucoup.
Une dizaine, une vingtaine.
Non, je ne peux pas répondre.
Je peux pas répondre, oui.
Mais vous avez eu l'impression que beaucoup de ces enfants n'ont pas vécu au-delà de quoi, 50 ans, 60 ans?
Ah, même pas. Même pas.
Sérieusement?
Oui, même pas. 20 ans, 30 ans.
Beaucoup de gens sont morts depuis, et combien sont malades aujourd'hui? Un des médecins les plus qualifiés pour le dire est le docteur Christian Sueur, pédopsychiatre au centre hospitalier de Polynésie française. Il visite les dispensaires et les écoles depuis bientôt 10 ans.
Tout vient de la décision du général de Gaulle de construire une force de défense autonome, une force nucléaire. Et donc les généticiens à l'époque, des gens comme Jean Rostand, disaient bien, il va falloir faire très attention à tout ça. On connaît donc depuis très longtemps les effets de la radioactivité sur le génome. Mais bon, cette question, elle a été mise de côté. Et il est donc devenu, à mon avis, important pour l'armée française et le pouvoir politique français, donc depuis 60 ans, de construire un mythe. Hein, le mythe, il n'y a pas de danger. En tout cas, on contrôle les dangers. Et depuis la fin des essais nucléaires, effectivement, donc la question serait de savoir s'il peut y avoir une sorte de rétropédalage et de dire non, on a clairement menti parce que c'était la raison d'État, c'était secret défense, c'était nécessaire de faire croire qu'il n'y avait pas de danger. Parce que tout a dû être fait pour limiter au maximum les dangers, mais ils ont joué aux apprentis sorciers. Hein. Donc il y a eu une première phase où un certain nombre de travailleurs du nucléaire ont été irradiés. Hein. Il y a eu un certain nombre de morts directement par des brûlures, par le feu radioactif lors des premiers essais atmosphériques. Donc il est clair que de multiples sacs fermés avec des personnes décédées ont transité par les moyens de l'armée entre Mururoa et l'hôpital Jean-Prince, ici, l'hôpital militaire. Bon, ça c'était la première phase. La deuxième phase, c'est les 20 années à peu près qui ont suivi les essais atmosphériques, donc une proportion non négligeable d'anciens travailleurs du nucléaire, encore une fois, donc soit des militaires, soit des personnels civils, que ce soit des popas, hein, comme on dit ici, c'est-à-dire venant de France, ou des locaux, ont développé de multiples tumeurs cancéreuses, etc., et sont morts les uns après les autres. Hein. Les interviews qu'on voit dans le film « Les enfants de la bombe », il est donc relaté qu'il n'y a plus aucun des plongeurs de l'époque, hein, ceux qui plongeaient dans le lagon pour installer les charges ou les dispositifs qui permettaient de produire ces effets nucléaires, tous ces plongeurs sont morts. Et ils sont tous morts autour de l'âge de 50 ans, ce qui est quand même un peu jeune, surtout pour des sportifs. La troisième phase, donc, c'est les années 90-2000, où là, effectivement, on s'aperçoit, parce qu'il y a des études faites dans le monde entier, que la radioactivité cause de façon épidémiologiquement sensible beaucoup plus de non seulement de pathologies cancéreuses, mais aussi de troubles métaboliques. Après Tchernobyl, on s'est rendu compte qu'il y avait des pathologies cardiaques, des pathologies métaboliques, des diabètes, des pathologies oculaires. Après, ce qui est apparu, c'est les dégâts donc très rapides liés à l'uranium appauvri. C'est-à-dire, les premières études qui ont été faites, c'est sur des vétérans italiens qui faisaient partie de la force de l'OTAN pour pacifier le Kosovo. Et donc, dès que cette force italienne est rentrée en Italie, ils se sont aperçus que leur descendance, les enfants, étaient présentés de multiples malformations génétiques.
Un plongeur irradié à Moruroa en 1986 est devenu directeur des parcs et jardins à Tahiti. Michel Araquino parle de ses enfants tous malades comme lui.
On va dire que j'ai pratiquement mes quatre enfants qui ont des séquelles. Oui, parce que il y a mon deuxième fils, il a des problèmes dans les os. Aujourd'hui, il a une malformation prononcée au niveau de la colonne que personne ne sait comment c'est venu. En prenant aujourd'hui, il a 34 ans. Après, il y a mon troisième qui n'a pas eu de développement au niveau de son sexe. C'était un garçon. Et ben, il avait un kiki tourikiki. Aujourd'hui, elle s'est transformée en fille. Il s'est fait opérer. Le quatrième, mon quatrième, il a des problèmes de fragilisation dans les os. Costaud comme tout, mais fragilisé. Et des problèmes de tendinite constamment. Et le dernier, il a des problèmes au niveau de la thyroïde.
C'est-à-dire ces fameux ganglions, ces inflammations.
Les inflammations, les ganglions, que les médecins disent encore, « Ah oui, mais c'est juste des ganglions dus à une infection. » C'est vrai, ça, si on prend à la base, ça ressemble à rien, c'est des maladies tout à fait normales. Mais ce n'est pas normal parce que c'est des maladies de vieux. Voilà. En tant que père, c'est dur parce que c'est moi qui l'ai transmis. C'est moi, c'est pas une maladie qui est arrivée comme ça. Je suis l'auteur de ça. Mais je suis auteur par...
Involontaire.
Oui, et par la confiance que j'ai apportée à mon pays. Je l'ai servi, le pays. À 100%. J'ai travaillé plus de 19 ans, mais avant j'étais militaire.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier là-bas, à Moruroa?
J'étais plongeur de scaphandrier. Et voilà, mon travail était d'aller faire des récoltes d'échantillons.
Juste au passage, beaucoup de vos collègues plongeurs sont morts, jeunes.
Oui.
C'est juste, hein?
Oui. Et c'est mes collègues plongeurs, surtout les plongeurs des mineurs, les plongeurs de bord, je vais dire aussi qu'ils m'ont pas, parce que j'étais le premier à faire le lanceur d'alerte, j'étais le premier en 2001, ils m'ont tous dénigré, renié, me traité de traite. Mais
combien sont morts que vous connaissiez à peu près?
Sept qui sont morts.
Ils sont morts de quoi?
Oui, parce qu'ils sont morts parce qu'on a ingurgité les radioéléments. On n'avait pas de tenue étanche. On était en plongée humide. Ça veut dire qu'il y a un détendeur dans la bouche. Et puis, voilà, c'est tout ça. Quand on travaille au fond, il y a des particules qui se déposent.
Et forcément, on peut l'avaler.
Et on a été contrôlé et qu'on était positif. Le souci que j'ai aujourd'hui depuis mes contrôles, c'est mes gros intestins et mon estomac et au niveau de mes os. On accuse l'arthrose. Bon, je suis dans l'âge d'avoir des arthroses, mais le problème, j'ai 55 ans. Aujourd'hui, il y a des médecins qui ont fait le rapprochement par rapport aux séquelles de mes os. Parce que mes os, ils ne sont pas atteints d'extérieur par l'arthrose. Ils sont atteints de l'intérieur.
C'est un empoisonnement lent.
Exactement.
Mais que se passe-t-il chez les plus jeunes, les petits-enfants des anciens travailleurs du nucléaire?
C'est des enfants qui sont amenés à la consultation pour des troubles du développement, des troubles du développement précoces. C'est-à-dire que la maturation cérébrale ne se fait pas de façon ordinaire. Et donc les enfants vont présenter soit des troubles du développement centrés sur la relation. Et à ce moment-là, on va avoir des enfants qui ressemblent à certains cas d'autisme ou de psychose infantile précoce. Et puis dans d'autres cas, les dégâts ou les anomalies de développement du cerveau vont être plus importants et on va avoir typiquement des retards mentaux. Et donc les premiers enfants qui m'ont été amenés en consultation pour les dépistages d'autisme, on va dire, hein, pour rester simple, ce qui était frappant, c'est qu'ils avaient aussi des anomalies morphologiques. Des anomalies de l'arbre urinaire, des malformations au niveau du visage, des asymétries ou des développements plus importants de la partie basse du visage ou de la partie haute ou des oreilles, etc. Enfin, tout un tas de...
Hydrocéphalie, c'est un mot trop fort.
Jusqu'à des syndromes beaucoup plus importants d'hydrocéphalie, des grosses malformations les plus importantes qui avaient quasiment disparu. Enfin, moi, j'en ai... Pendant les 20 ans que j'ai travaillé en France métropolitaine, j'ai jamais vu ce type de cas. Et ici, effectivement, on voit des raretés. Et ce qui les rassemble, c'est que leurs grands-parents sont des vétérans du nucléaire, hein, systématiquement, c'est ça. C'est en faisant l'anamnèse, l'arbre généalogique de ces enfants, qu'on est à 95% tous les enfants qui présentent ce type de troubles précoces du développement neurobiologique ont des grands-parents qui ont travaillé à Mururoa à l'époque des essais atmosphériques. Ça, c'est la première occurrence.
Donc,
qui accompagnait...
on parle de leurs petits-enfants.
Voilà, on est à l'échelon des petits-enfants. Donc, ces enfants ne sont pas cachés, mais ces enfants restent en famille, parce que même à la petite école du village, qui est très, très accueillante, etc., ils ne peuvent pas suivre. Et à ce moment-là, on les voit. C'est-à-dire que dans chaque classe, on va avoir pratiquement un enfant ou deux qui présente un trouble du développement. Et puis donc, moi, c'est pas des troubles du développement que j'ai l'habitude de voir en psychiatrie.
Dès le début des essais, les médecins militaires observent les populations. L'institutrice Jacqueline Golaz revient en métropole en 1968.
À Paris, on se promenait avec ma soeur, je suis tombée comme une loque, là, comme ça. Comme ça. On dirait que j'étais devenue du coton. Et j'étais avec une soeur, et elle m'a envoyée dans une clinique. Et alors, dans la clinique, quand les médecins ont vu, institutrice au Gambier, en Polynésie, mais c'est là où il y a les tirs nucléaires. Allez, chez les militaires. Ils m'ont envoyée à Val-de-Grâce. Je suis restée 8 mois.
Qu'est-ce qu'on vous a fait pendant ces 8 mois? Il y a eu quoi? On a testé les radiations ou qu'est-ce qu'on a cherché?
On m'a testé sur les radiations. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle toujours. J'étais sur un brancard, allongé, et il y avait plein de choses qui étaient là. J'avais quand même un petit militaire. Et puis, on me faisait passer des rayons, des machins, des choses et tout. Mais je ne savais pas ce que j'avais. Hein. J'ai jamais su, d'ailleurs. J'ai jamais su.
Vous leur avez demandé, là, maintenant, vous seriez en droit, parce que c'est votre droit de savoir. Vous avez demandé à savoir?
Non. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Alors, j'ai été voir le docteur, j'ai tout enlevé, ce que j'avais là, par mesure de sécurité.
Ablation
de tout. Au vert, tout ça.
Et par c'est mesure. Vous qui l'avez demandé?
C'est moi, parce que j'ai vu beaucoup de mes copines mongariviennes qui ont eu le cancer à là. Aux ovaires,
cancer du sein.
Cancer du sein, oui. Cancer de l'utérus aussi. Beaucoup de femmes des Gambiers.
D'après ce que vous m'avez dit sur vos maladies, vous êtes probablement sur les 21 cas de figure de maladies envisagées par la loi Morin, non?
Non.
Vous aimeriez que la loi...
J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour mon fils parce qu'il a une cataracte. J'ai un fils qui est borgne. Et je viens de voir il y a 2-3 ans, que la cataracte fait partie des choses nucléaires. Il est né au Gambier.
Il a quel âge maintenant?
50 ans. Mm-hmm. Mais il est borgne.
Depuis que la loi Morin existe, seulement 7 Polynésiens et un seul ayant travaillé à Moruroa ont été indemnisés. Teriyaki Brander a perdu son grand-père, décédé d'un cancer du poumon, sur l'île voisine de Toureia, 300 habitants.
Pour nous, c'est automatique. On a été contaminés par les nuages, parce qu'il semblerait qu'ils ont fait des tirs en pensant que la météo était favorable pour les tirs, et puis finalement, bah, y a eu un faux pas. Il y a eu
un changement de vent.
Et le vent a été situé directement sur tous les...
Voilà. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cet essai nucléaire-là qui a provoqué beaucoup de dégâts et qui remonte à 1971?
Je pense que c'est ce tir-là parce que, comme on a entendu parler, hein, on a entendu parler de ce nuage qui était venu directement sur notre petit atoll, quoi. Ben, l'eau de pluie, c'est, à l'époque, c'est depuis le temps des anciens jusqu'à aujourd'hui. Hein. À tous les heures, il n'y a pas d'eau potable ou d'eau avec par le moyen. Voilà, c'est
l'eau courante.
C'est l'eau de pluie.
Voilà. Donc il y a une citerne, l'eau de pluie.
Voilà. Et à partir de là, ben, le mât est préparé, enfin la nourriture est préparée, les biberons sont préparés aussi.
On fait bouillir aujourd'hui l'eau.
Ou pas.
Pour l'eau, ça n'avait pas d'importance parce que. Ben, la notion de l'eau potable n'était pas, j'imagine qu'à cette époque-là, n'était pas d'actualité.
Mais peut-être ton papa, lui, a eu un biberon qui contenait de l'eau de pluie qui aurait mérité d'être analysé. Parce que même si on l'a fait bouillir, ça ne change pas grand-chose, je crois. Mais est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire qu'à l'époque de ton grand-père ou de ton père, est-ce que tu sais comment les mamans faisaient les biberons?
À l'époque, ben, les biberons se faisaient avec l'eau de pluie, avec du lait Nestlé, du lait concentré.
Ouais, en boîte.
En boîte.
Mmh. Donc plus d'un bébé a bu l'eau de la citerne contaminée.
Plus d'un bébé, c'est trop gentil ça. C'est tous les bébés de cette époque-là, donc...
Jusque dans les années... les essais, c'est oui. 66-74 dans l'atmosphère.
Enfin, tous les bébés de cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui même, on en prépare le biberon avec l'eau de pluie. Et l'eau de pluie contaminée à cette époque-là.
Et le grand-père était le seul malade jusqu'à maintenant?
Non, c'est pas le seul malade. Parce que aujourd'hui, on a des malades, même dans ma famille même. Donc mon grand-père, qui a eu cette maladie, cancer pulmonaire, papa, qui a été opéré de la thyroïde l'année dernière, une autre sœur de papa, qui a la thyroïde, l'aîné des sœurs, qui a été opéré de cancer du sein, et le deuxième, elle est en traitement actuellement.
Alors ça fait beaucoup pour une population, tu me disais de...
Énormément, ça fait beaucoup pour une petite population. C'est assez aberrant parce que la sécurité sociale, c'est les travailleurs qui ont cotisé pour payer cette lourde charge-là. Voilà, mais alors que c'est l'État français qui a fait les essais nucléaires. Peut-être l'État pourrait bien faire cet effort-là de pouvoir aider financièrement le déplacement des personnes qui sont tombées malades.
Et qui ont besoin de soins très pointus.
Voilà, exactement. Pour moi, la première chose, c'est peut-être que l'État français puisse reconnaître ces faits-là. Que la réparation ne doit pas que seulement être financière. Et qu'il y ait un suivi médical. Parce que c'est difficile de se faire soigner ici en Polynésie, hein, avec cette particularité avec les îles qui sont assez lointaines. Il faut venir sur Tahiti pour se faire soigner.
François Hollande découvre en février dernier une pétition de l'association 193. 193 pour 193 essais nucléaires, une pétition pour réclamer une enquête de santé indépendante et un référendum avec cette question, les essais étaient-ils propres? Le père Auguste Carlson préside l'association.
On est persuadé que l'État cache la vérité sur les effets néfastes du nucléaire sur la population. Près de 8000 personnes pourraient rentrer dans la liste de la loi Morin. Et ces 8000 personnes ont généré plus de 40 milliards pacifiques de dépenses. Quelque chose comme 400 millions d'euros. Comment ça se fait que la CPS, qui
la Caisse de prévoyance
la Caisse sociale.
Sociale,
dit, voilà, depuis quelques années, en Polynésie, 500 à 700 personnes développent un cancer. Par an, il faut bien une cause qui provoque un tel dérèglement sanitaire. Et nous sommes persuadés que cette cause-là, ben, elle est liée aux essais nucléaires. Nous avons demandé dernièrement, lors de la visite de Hollande, pourquoi est-ce qu'en Polynésie, il n'y a jamais eu d'études sérieuses sur les maladies dites transgénérationnelles. Mais il n'y en a jamais eu. À Tchernobyl, nous savons bien que les enfants développaient des maladies et des malformations graves. Et donc, ce sont les maladies, en fin de compte, qui, pour nous, parlent le mieux des essais nucléaires.
Depuis 2007, l'armée française propose un suivi médical aux familles des anciens travailleurs du nucléaire. Le médecin-chef, Patrice Baer, nous ouvre les portes du comité de suivi médical à Papeete.
Voilà. Toutes ces armoires contiennent les dossiers médicaux. Alors, en rouge, les dossiers médicaux des anciens travailleurs civils et militaires qui ont travaillé sur les sites de Mururoa, Fangatofa, Hao. Et en bleu, ce sont les dossiers des habitants des atolls proches de Mururoa, Pukarua, Reao, Tureia, et puis les îles Gambier, Mangareva.
Pourquoi vous m'avez montré ces dossiers? Parce que rouge et bleu, parce qu'ils sont nombreux. Parce que,
voilà, ils sont nombreux et on voit du premier coup d'œil l'ensemble de la population qui est suivie dans ce centre médical.
Combien de personnes?
Alors actuellement, 1800 personnes qui sont visitées chaque année. Et tantôt sur les îles, ou alors sur notre site ici à Papeete, ou encore sur Taravao, sur la presqu'île de Tahiti, où nous nous rendons aussi une fois par mois. Actuellement, ce que l'on recherche, c'est la présence de cancers qui pourraient apparaître des années après l'exposition. C'est une des conséquences de l'exposition à la radioactivité, c'est le voir apparaître des décennies après l'exposition, certaines maladies, notamment donc des cancers, effectivement en particulier les maladies comme le cancer de la thyroïde, mais bien d'autres. Hein.
Oui, leucémie, par exemple.
Leucémie, cancer du poumon. Et donc, ce sont ces maladies que nous nous attachons à essayer de repérer en particulier.
Bon, vous pouvez me parler de Tureia? C'est un peu particulier.
Tureia est l'atoll le plus proche de Mururoa, situé à 100 km, et qui est effectivement un atoll sur lequel nous nous rendons deux fois par an. D'ailleurs, je suis celui qui y va. Et donc, je connais bien la population maintenant. Et c'est un atoll sur lequel, en fait, pour l'instant, nous n'avons pas recueilli plus de maladies potentiellement radio-induites que les autres atolls sur lesquels nous y allons.
En ce moment?
Oui, parce que un suivi de population s'inscrit forcément dans la durée. Donc, soit je vous donne l'état de la photographie actuellement, mais ce serait entre guillemets une photo qui n'intéresserait que le moment, en ce moment. Et c'est pour ça que j'élargis en disant le suivi continue.
Voilà. Donc, ces 20 dernières années, il y a eu quand même un taux de cancer intéressant à Tureia.
Ah non. Non, mais je sais, en revanche, je ne sais pas où vous l'avez lu ou qui vous l'a dit. Mais ce qui est certain, c'est que le nombre des cancers que nous avons répertoriés, y compris des gens qui étaient décédés avant que le CMS ne soit ouvert, nous permet pas de dire aujourd'hui qu'il y a un taux alarmant et anormalement élevé sur Tureia par rapport aux atolls à côté de Reao, de Pukarua ou de la Polynésie en général.
Ça vous permet de dire c'est plus élevé, mais pas comment vous dites ?
Non, c'est pas alarmant, c'est même pas plus élevé. C'est qu'on est dans la norme du nombre des cancers en Polynésie. Voilà.
Bon, alors. On a de bonnes nouvelles, hein. Grâce à vous, on sait qu'ils vont bien, hein, c'est ça?
Bah écoutez, l'ensemble de la population se porte bien, avec tous les problèmes éventuellement en rapport avec la santé publique telle qu'on la connaît en Polynésie. Et parmi les gens que nous connaissons de Tureia, eh bien, on a recensé moins d'une dizaine de cancers. Voilà.
Certains ont été indemnisés, toutes fait.
Alors sur Tureia, il n'y a qu'une seule personne qui a été indemnisée.
De qui s'agit-il?
Il s'agit d'un individu qui a présenté un cancer du poumon, un habitant.
Radio-induit?
Alors, qui a été jugé potentiellement radio-induit par le CIVEN, qui a proposé effectivement une indemnisation. Il fait partie de ces 7 Polynésiens qui ont été indemnisés par la loi Morin.
Et donc, qu'est-ce qu'il faisait cet homme? C'est intéressant. Il vivait là, simplement, à l'époque des essais dans l'atmosphère?
C'est un habitant. Effectivement, je crois même que c'était le maire de Tureia. Et voilà, et donc c'est un habitant, il travaillait, il faisait le copra, comme on en fait sur ces atolls, c'est-à-dire le fait de récolter les noix de coco, la pêche, et voilà.
Le CIVEN, qui est le comité qui instruit les dossiers, a admis qu'il pouvait y avoir un lien entre ce qu'il a pu respirer, juste après les essais, et son
son cancer du poumon. Oui. Et pourquoi pas les autres, alors?
Alors écoutez, ça, il faudra poser la question au Siven. Hein. Moi, j'ai pas vu le dossier qui a déterminé cette décision du Siven.
Mais vous êtes d'accord pour dire que tout le monde respirait la même chose au même moment?
Alors, il n'y a pas que le fait de respirer, il y a aussi le fait de manger. Hein. On peut très bien être contaminé interne, soit par l'alimentation, la boisson, ou par ce que l'on peut respirer. Alors, il se trouve que cette personne, moi, je ne l'ai pas connue, puisqu'elle était décédée avant que j'arrive, et elle ne fait pas partie, d'ailleurs, des personnes que l'on suivait dans le CMS. Je connais un certain nombre de ses enfants, en revanche, et donc lui a été indemnisé par le Siven au titre de son cancer. Voilà. Je ne sais pas sur quels éléments le Siven s'est appuyé pour considérer que lui, en particulier, méritait d'être indemnisé par rapport aux autres habitants. Donc là, je serais bien en peine de vous répondre.
Les enfants vont comment ?
Écoutez, les enfants de cette famille vont bien, mis à part certains, qui ont présenté également une maladie cancéreuse. Voilà. Mais on parle bien d'une famille. D'accord ? C'est-à-dire qu'il peut se faire que cette famille présente un certain nombre d'éléments, peut-être génétiques, qui peut favoriser l'émergence de cancers au sein de cette famille. D'ailleurs, c'est le cas aussi en France, en métropole, où lorsque on examine des gens, on pose des questions sur les antécédents familiaux pour savoir s'il y a eu de nombreux cancers au sein d'une famille. Et donc, on est peut-être, dans ce cas particulier, de cette famille, surtout Raya, face à des critères qui favorisent l'émergence de cancers.
Il y aurait sûrement plus de demandes d'indemnisation si les gens savaient s'ils ont été irradiés ou pas, mais leur dossier militaire reste inaccessible. François Danzer aimerait le savoir. Sa carrière de grutier commence au Sahara et couvre toutes les campagnes de tir dans le Pacifique.
On était protégés, on était contrôlés, on avait un dosimètre, on avait des combinaisons spécifiques quand on allait dans les zones à plaie chaude, et puis on était contrôlés à chaque sortie de zone. Voilà, bon. Mais par contre, ce que je regrette un peu, je n'ai jamais eu le résultat.
Secret défense.
Secret défense, alors ça, c'est pas normal qu'on n'était pas au courant. Alors je ne sais pas si j'étais un jour radioactif ou pas, j'en sais rien. Je ne pourrais pas le dire. Bon, mais je suis encore là, donc...
Oui, vous êtes encore là, mais vos enfants et petits-enfants vont avoir des enfants.
Oui, affirmatif, oui, mais je ne pense pas que c'est pas congénital quand même. Parce que ce qui m'a surpris un jour, on passait une spectrométrie dans une espèce de caisson, là, tous les 6 mois. Puis donc, un jour, ça durait trop longtemps. Et je suis ressorti, je voyais le calculateur qui s'emballait, et puis le gars qui s'occupait de ça, c'était les militaires. Et ils m'ont remis dans le caisson, et là, ça durait pratiquement 1 heure. Et j'ai demandé, bon, j'ai quelque chose, et il me dit, on ne peut pas vous le dire. J'ai jamais eu les résultats.
Mais ça, vous pourriez les exiger.
Mais je les ai exigés, alors soi-disant, je suis inconnu au bataillon. C'est un peu inquiétant quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui sont plus de ce monde.
Mais oui, il y a des gens qui sont partis et il y a des gens qui sont malades.
Alors, est-ce bien la faute du CEP? Est-ce bien la faute de...
La faute à qui? On verra, attendant, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les conséquences humaines.
Il y avait cette fameuse loi Morin qui était sortie, qui était du bidon pas possible.
Pourquoi vous dites que c'était bidon, la loi Morin?
Parce qu'elle n'était pas adaptée au système. Hein.
Bon, maintenant, elle est toujours là, en tout cas, avec 21 maladies.
Oui, mais la loi Morin, c'est une chose, mais elle n'est pas complète. Mais de toute façon, personne n'est indemnisé. Si une ou deux personnes...
Sept Polynésiens et voilà. 19 au total.
Oui, mais happy pitcha. Hein. La femme qui a perdu son mari suite à une contamination, mais elle vit avec happy pitcha. Hein. Elle n'a pas de quoi vivre. Hein.
C'est vrai, il n'y a pas de pension voilà. Pour les veuves ou les...
Voilà, affirmatif, ça c'est dégueulasse.
Alors, effectivement, la loi, on est en train d'essayer, c'est ce que le président propose,
voilà,
de trouver un système...
Le président, donc, ce dernier passage, il a été clair, il a dit qu'il allait améliorer tout ça, alors maintenant on va voir, une scie, hein.
Très souvent, dans la psychologie des gens qui ont travaillé, y compris à Mororoa ou sur AO, ils disent, peut-être on a bien mérité ce qui nous arrive, même au niveau santé. Il y a une certaine culpabilité Nous payons l'argent que nous avons gagné.
Bruno Barillot, ex-délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires.
Le seul dossier de la personne de Mauroy qui a été indemnisé, d'ailleurs il est mort de leucémie, j'en ai parlé, on a calculé l'indemnisation sur les 15 jours de sa maladie qui a conduit à sa mort, et pour faire revenir le corps, c'est la veuve qui a dû payer pour pouvoir enterrer son mari. C'est scandaleux, c'est des affaires qui font honte d'être français quand on voit que des choses se passent comme ça.
Le curseur, faut le mettre où ?
À mon avis, pour les personnes qui ont vécu ou qui ont travaillé sur les sites nucléaires, qui ont vécu la période la plus dangereuse, en particulier des essais aériens, et qui ont subi les retombées radioactives, des nuages radioactifs, je pense qu'il faudrait appliquer, comme le font les Américains, le principe de présomption, c'est-à-dire que vous étiez sur les sites nucléaires ou à proximité, à l'époque, à une époque déterminée du temps des essais, et vous êtes atteint d'une ou l'autre maladie de la liste de la loi, on présume qu'il y a un lien et on indemnise en fonction du préjudice. Les radiations américaines et les radiations françaises, c'est les mêmes. Je pense qu'on devrait prendre les mêmes mesures. Et la présomption s'applique à n'importe quelle personne, que ce soit un Polynésien, métropolitain ou, dans le cas algérien, des populations du Sahara.
Aujourd'hui, les soins me coûtent très cher. Je suis obligé de prendre un complément de remboursement parce que les radios coûtent très très cher et il m'en faut plusieurs radios pour diagnostiquer et ou les suivis. Le complément, c'est moi-même qui me suis pris une assurance complémentaire que je paye par mois. La CPS prend 80%, mais il y a certains soins qui ne sont pas pris en compte, qui sont à 100% pour moi.
Par exemple,
Si je passe 5 jours à l'hôpital, il y a 3 jours qui est pris en charge, il y a 2 jours qui est à ma pomme. Et si je veux avoir une chambre où je peux être tranquille, je paye plein pot. Et puis, on a besoin, quand tu subis ces retours de maladie et puis des hospitalisations, on a besoin aussi psychiquement d'être tranquille, d'être tout seul dans son coin pour pouvoir remonter. Ça me fait à peu près pour tous les... on va dire tous les trois mois, entre 1800 et 3000 euros.
Le gouvernement français serait prêt à réviser le décret d'application de la loi Morin pour indemniser quelques centaines de cas, sans parler des maladies héritées. Il en coûterait 70 millions d'euros à l'État, selon l'estimation de l'avocat Jean-Paul Tessonnière, connu aussi pour avoir gagné le procès de l'amiante.
Le principe des maladies transgénérationnelles, qui est pourtant avéré pour le risque nucléaire, n'est pas reconnu par la loi Morin. Alors, potentiellement des malformations, des effets tératogènes pour les enfants à naître, mais ça concerne surtout les femmes exposées pendant les tirs nucléaires alors qu'elles étaient en état de grossesse. Mais il peut y avoir des atteintes à l'ADN qui vont induire des pathologies et des cancers 2-3 générations plus tard. Pour adopter la loi Morin et pour établir le risque à la suite de chaque tir nucléaire, on a pris comme modèle ce qui s'était passé à Hiroshima et Nagasaki. Or, nous sommes devant des phénomènes physiques absolument radicalement différents. Les bombes d'Hiroshima et Nagasaki explosent à 700 ou 800 mètres d'altitude. Il n'y a pas eu de mise en suspension dans l'atmosphère de l'eau, du sable arraché au sol par la chaleur du tir nucléaire, puisque les tirs sont intervenus en altitude. Et donc, c'est le rayonnement direct émis au moment du tir, le flash nucléaire, qui va tuer les victimes quasiment immédiatement. Pour les essais nucléaires...
Ce qu'on appelle les champignons.
Voilà, les champignons qui s'élèvent et qui sont constitués par la masse d'eau du lagon quand c'est en Polynésie ou le sable du désert quand c'est au Sahara. Alors là, on va charger en particules radioactives le sable ou l'eau, selon qu'on est au Sahara et en Polynésie. Et cette eau va retomber en fines gouttelettes dans un rayon de quelques centaines de kilomètres autour du tir. Et ceux qui vont inhaler ces particules d'eau vont voir des particules radioactives collées à leurs poumons pendant des années et des années et qui émettront un rayonnement qui, à terme, développera ensuite un cancer bronchopulmonaire. Donc il s'agit de contamination radioactive. Et donc les études épidémiologiques qui sont faites, qui sont extrapolées d'Hiroshima et de Nagasaki, en réalité ont très peu de valeur pour examiner la réalité du risque subi par les populations et par les militaires qui participaient au tir.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la loi Morin, le seul moyen pour les anciens travailleurs de Moruroa ou les anciens militaires d'être indemnisés, c'était d'avoir une reconnaissance de la maladie professionnelle.
Mireille Loubet, journaliste à Tahiti Info.
C'est-à-dire que les dossiers qui ont été présentés en 2007, donc bien avant la loi Morin, commencent à porter leurs fruits aujourd'hui. Il y a eu effectivement une décision au mois de février dernier où l'État a été condamné à verser une provision à un ancien travailleur qui effectivement était reconnu avec une maladie professionnelle. Alors en fait, pour être exact, donc c'est un sexagénaire, il a pour l'instant une indemnisation prévisionnelle de 500 000 francs. Mais c'est provisionnel, il demande au total 63,3 millions de francs pacifiques. Il a à la fois un cancer cutané et un lymphome.
Alors il y a les autres, tous les dossiers accumulés par Moru et Tatou, l'association des vétérans civils et militaires. Et parmi eux, bon, on compte aujourd'hui beaucoup de déçus, c'est-à-dire que cette loi marche si mal qu'elle va aussi avoir des effets secondaires politiques.
Probablement, elle marche tellement mal qu'effectivement, il y a des moments où on ne comprend pas quand on suit les dossiers que l'association présente ou que le tribunal présente. Parce que tous ces dossiers, ce qu'il faut savoir, ils sont présentés au CIVEN, Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, ce qui est la voie normale. On voit effectivement des gens qui ont des fois été 20 ans sous les tirs, atmosphériques et souterrains. Je prends encore un cas d'un autre travailleur, effectivement. De 66 à 1987, il est à Moruroa et à Ho. Il est sous les feux donc de 28 tirs atmosphériques et 33 souterrains. Il a les maladies qui sont reconnues. Et pourtant, en 2011, il y a le rejet par la commission de la reconnaissance de ces maladies. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut ? Donc il est après obligé de faire appel de nouveau à la justice, tribunal administratif, cour d'appel de Paris, et jusqu'au Conseil d'État éventuellement, pour essayer d'obtenir quelque chose.
Pourtant, il y a une raison humanitaire d'ouvrir les dossiers. C'est que ce qui est contenu dedans peut aider les médecins à déterminer s'il y a un danger pour les générations futures dans les familles concernées.
Oui, ça, il faudra avoir la volonté de vouloir chercher. On a l'impression qu'on ne veut pas chercher. On ne veut surtout pas chercher, parce que qui cherche trouve. Donc on ne cherche pas, au moins on ne trouvera rien.
Il y a même un sentiment d'injustice qui doit percer quelque part.
Forcément un sentiment d'injustice. Je crois que c'est ça qui aujourd'hui, nous on n'arrive pas à comprendre, les habitants de Polynésie, quels qu'ils soient, enfin, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit, qui produit encore des effets aujourd'hui, et qu'on n'imagine pas qu'il n'y ait pas effectivement des choses normales qui soient faites et une indemnisation des victimes. On l'a fait pour l'amiante, pourquoi on ne le ferait pas pour quelque chose d'encore plus dramatique qui est le nucléaire ? Il y a des habitants, il y a l'île de Touréa, par exemple, on prend que celle-là, elle est à 100 km de Moruroa, il y a des habitants, il y a toujours eu des habitants depuis le premier tir. Comment imaginer, à 100 km de tirs atmosphériques violents, puissants, certains mal maîtrisés en plus, qu'on ait aussi peu de reconnaissance de victimes. Sans compter que Touréa se prend le deuxième effet qui se coule, j'allais dire, des essais nucléaires, puisqu'aujourd'hui, ils sont sous la menace potentielle, alors on nous dit, pareil, risque négligeable là aussi, hein, d'effondrement d'une partie de l'atoll de Moruroa, fragilisée par tous ces tirs après souterrain, et que donc ils vivent sous la menace d'un tsunami qui pourrait arriver d'un moment à l'autre un jour.
Le 9 septembre 1966.
Le général de Gaulle est en ce moment à bord du croiseur De Grasse. Il se trouve donc à quelques 40 km de l'atoll de Moruroa, au-dessus duquel explosera la bombe atomique française, si toutefois les conditions atmosphériques le permettent. La journée d'hier a été aussi marquée par des festivités colorées et chaleureuses organisées par les Tahitiens. Les maires ont réaffirmé leur attachement à la France et le général de Gaulle leur a répondu en ces termes.
La France estime et aime la Polynésie française aussi, parce que en ce moment même, elle est le siège d'une grande organisation où nous sommes en train de réaliser une puissance moderne. Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. Mais au contraire, cette installation, cette organisation est en quelque sorte le départ pour tout l'ensemble des archipels, le départ pour un grand et nouveau progrès.
$70 millions, qu'est-ce que c'est, disent les Polynésiens, comparé aux efforts consentis pour devenir et rester une grande puissance? On s'est assuré ma bienveillance pour moins que ça, se rappelle Jacqueline Golaz.
Un lit de 2 mètres sur 2 mètres, un frigidaire magnifique, une machine à laver, c'est le curé qui me faisait cadeau. Mais je dis à personne, hein. Oui. Et puis, quelques mois après, on me dit que le général de Gaulle va venir dormir dans mon lit. Ah! Oui, pourquoi pas, j'ai un lit de 2 mètres sur 2 mètres et il mesure 1,80 m. Et avant qu'il arrive, il y a 2-3 messieurs qui veulent dormir chez moi. Alors j'ai dit, ben oui, vous pouvez dormir. Moi, comme c'est une grande maison d'administration, j'ai dit, ben dormez, voilà. Ben j'ai appris après, c'était des hommes de renseignement qui venaient voir si ma maison était conforme pour le général de Gaulle.
Il n'est jamais venu.
Il n'est jamais venu parce que le nuage se venait. Alors, parce que le soir, on avait un grand repas qui devait être fait. Le cochon et tout, et dormir chez moi. Et puis le lendemain, je dis au gendarme, et alors, où il est mon invité? Il n'est pas venu mon invité hier soir. Il me répond, ben non, il a été appelé à Paris, il a eu une réunion importante sur Paris. C'est après que j'ai su que le général de Gaulle n'est pas venu parce que le nuage venait sur les gombiers. Et attendez, je vais vous dire quelque chose. Ariquitéa, toutes les grosses têtes étaient là, présentes, à Riquetia pour attendre le général de Gaulle. Mais quand ils ont appris qu'il y avait le nuage qui venait, ils sont tous partis.
Appelle-lui, Manouille.
Non, toi, si tu veux dire comment tu t'appelles, tu dis « Ovo-te-i-e ».
Ovo-te-i-e-to.
Polynésie Génération Nucléaire, c'était un reportage de Philippe Reltien, réalisé par Flora Bernard avec l'assistance de Stéphane Combe et mixé par Maxime Ingrand. Zora Bensmaili réalise notre page internet.